une création.
Blast.
Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires.
Il se passe quoi ? Il se passe quoi ?
Il se passe quoi ? À Grand Fort Philippe.
Vous ne passerez pas. Un slogan scandé par une dizaine de militants d'extrême droite qui brandissent des drapeaux anglais. Sur cette vidéo, on les voit prendre à partie un groupe de migrants.
Le fait de les réveiller avec des lumières, c'est physiquement violent. Et en fait, on les voit à la fin quand même faire des menaces physiques. On voit un des hommes avec les poings face aux personnes exilées. C'est terrorisant comme action.
Selon l'association Utopia 56, les faits se seraient déroulés dans la nuit du 9 au 10 septembre, dans cette rue de Grand Fort Philippe, à proximité de la plage, après une tentative avortée de traverser de la Manche. Ce n'est pas le premier coup d'éclat de UKIP sur le littoral. En juin dernier, déjà, le leader du mouvement avait menacé des migrants et des associations à Calais. Une enquête vient d'être ouverte par le parquet de Dunkerque pour violence aggravée.
Pagaille. Épisode 20. De Dunkerque à Calais, la frontière de la honte. Par Alexandre Hérault et Vincent Deck. Sonny Clincard, monsieur le maire, d'hiver gauche, ici, à Grand Fort Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 et le 9 septembre dernier, ici, sur votre plage, celle de la commune ?
Une espèce de milice britannique a débarqué sur la commune de Grand Fort Philippe comme sur d'autres communes où il y a des regroupements et des campements massifs de migrants. Ils veulent fermer les robinets en faisant abstraction qu'il s'agit d'êtres humains, de femmes, d'hommes et d'enfants qui sont jetés sur notre territoire, des gens qui sont bord de route, qui dorment dehors, des cortèges de personnes, hommes, femmes, enfants, en déshérence, et puis qui sont amenés à prendre tous les risques pour traverser, au risque de perdre la vie, qui sont sous le joug de trafiquants d'êtres humains, voilà, les passeurs qui s'enrichissent et qui exploitent la misère humaine. Et puis tout ça, ça fait un tout. Et finalement, quand vous êtes à pied ou en voiture ou dans les transports en commun, ben, vous êtes confronté à ça. Humainement, c'est terrible. Et ce qui est pathétique et qui nous met en colère, c'est que finalement, quand on voit tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qui peut être parfois aussi relayé par certains médias et qui joue sur les peurs, tout ça contribue justement à une montée des extrêmes qui, telle une araignée tisse une toile, attendent dans le fond de la toile. Et puis exploiter et profiter et espérer rafler la mise dans les urnes.
Cette toile d'araignée, on la voit grandir. Et il est compliqué de démêler les chevaux de ces pelotes de haine qui se déversent sur la figure devenue l'objet de toutes les peurs et des fantasmes. Celle de l'étranger venu tenter la traversée vers le Royaume-Uni. Il faut savoir que depuis Calais, aujourd'hui bunkerisé, les tentatives pour rejoindre l'autre rive du Channel sont quasi impossibles et que désormais, c'est plus vers le nord que les traversées s'opèrent. Cela transforme le Dunkerquois en nouveau no man's land pour campements informels, insalubres, où errent quelques 2500 candidats à l'exil traqués, pourchassés par les autorités policières, mais épaulés par les associations et ONG comme Utopia 56. On a rendez-vous dans leur antenne de Grande-Synthe avec Félicie Pénron et Céleste Pichot, qui coordonnent la petite équipe des bénévoles se préparant à la maraude d'entraide de cette nuit, car la météo offre une fenêtre de départ. Il est 17h lorsque j'arrive sur place, dans leurs locaux, situés dans une ancienne distillerie retapée, un peu vétuste, mais à l'orée d'un parc d'une vaste propriété arborée, ce qui lui vaut d'être baptisé le château.
Bonjour. Bienvenue au château.
J'ai rendez-vous avec Céleste. Il est où ?
Dans le bureau des cordeaux.
Ok, on y va. Céleste ?
Oui ?
Là, quand il faut savoir ce qui se passe autour de... et ce qui s'organise ici, sur ces rivages, je crois qu'Utopia 56 se joue un sacré rôle, non ?
Ben, on est présent sur le littoral depuis maintenant 10 ans, quasiment.
Et du coup, là, ouais, on a une mission très axée sur le littoral, de prévention des risques de la traversée, et aussi d'aller à la rencontre des personnes qui sont en détresse après une tentative, proposer quelques affaires de rechange aux personnes qui sont totalement trempées, faire en sorte que l'État fasse son devoir et de prendre en charge ces personnes en détresse. C'est un peu l'approche d'Utopia. Donc là, l'idée, ce n'est pas de suppléer, de dire « Ok, vu que vous ne le faites pas, on le fait ». C'est plutôt de dire « Vous ne le faites pas, on va le faire le temps qu'il y a un changement politique de l'approche de la situation ». Utopia essaye de mettre en place, à l'aide des citoyens et citoyennes, puisque c'est une asso de mobilisation citoyenne, il ne faut pas l'oublier, de dire que ça peut être le pouvoir de chaque personne de pouvoir faire changer les choses et d'aller vers quelque chose plus proche de la liberté de circulation et de la liberté d'installation pour toutes les personnes, qui sont très souvent appelées les migrants-migrantes, est un terme très connoté, et du coup de plutôt requalifier les personnes, donc parler de personnes, personnes en situation d'exil, personnes en migration, personnes bloquées à la frontière. En fait, on parle de personnes, d'êtres humains, de femmes, d'enfants, d'hommes.
J'ai envie, parce qu'il y a Félicie qui coordonne aussi cette antenne à Grande-Synthe d'Utopia 56, et que je reconnais, parce qu'elle a, à un moment donné, dû s'exprimer après ce qui s'est passé sur la frontière. Comment tu les qualifierais, ces provocations que l'on a vues dans la nuit du 9 au 10 septembre dernier ?
Moi, je pense que c'est important de qualifier ça de violence raciste. C'est quand même des personnes qui viennent violenter des personnes parce qu'elles viennent d'un pays non européen et que du coup, ils considèrent que ces personnes-là n'ont pas le droit de traverser la frontière.
UKIP, c'est une organisation d'ultra-droite anglaise. Ce mouvement-là menace depuis très longtemps de venir dans le nord de la France avec une cagnotte qui s'élève au-delà de 20 000 euros actuellement. Une cagnotte pour pouvoir venir faire une mission de terrain. On parle de passage à tabac de certaines personnes et de vol aussi, vol de gilets de sauvetage, de couverture. Ça se rapproche des ratonnades, quoi.
C'est extrêmement inquiétant parce que c'est quand même des personnes qui, là, visiblement, agissent en toute impunité. Enfin, sur le littoral nord, nous, ce qu'on documente, ce que les personnes nous racontent, enfin, c'est quand même une très, très forte présence policière qui a pour objectif d'empêcher les gens de traverser, mais qui, en l'occurrence, n'a pas été capable d'empêcher ces activistes ultra-droite de violenter ces personnes, de le filmer et de le publier sur leurs réseaux sociaux. Et je pense que le plus difficile, c'est de gérer aussi sa colère face à la situation.
Et là où ça peut être compliqué aussi, pour nous, et ce qu'on essaie de surveiller, c'est qu'il y a certains mouvements d'extrême droite de France aussi qui ont l'air de tisser du lien avec UKIP. Nous, ce qui est important, c'est que ce genre d'agissement ne reste pas impuni. Et qu'il y a aussi cette prise de conscience citoyenne de la réalité de l'extrême droite. Qu'est-ce que c'est ? C'est des idées de haine, de violence physique et de violence morale. C'est pas un programme politique.
L'Angleterre reste une sorte d'Eldorado, même s'il est peut-être à mettre entre guillemets ce nom.
Non, l'Angleterre, c'est pas un Eldorado, c'est pas une terre d'accueil. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est la seule et dernière solution, en fait. En tout cas, de nos lectures ou de nos écoutes ou de différentes sources de renseignements, la majorité des personnes, si elles avaient pu, elles seraient restées là où elles sont nées ou là où elles habitaient avant. Et les personnes n'ont pas le choix. Et ce qu'elles cherchent, c'est juste à survivre.
Pour revenir à du coup, ce qui va se passer cette nuit, on s'attend quand même, au vu des conditions météo, et que ce soit la première en deux semaines, fenêtre météo, qu'il y ait des personnes qui tentent la traversée. Du coup, une attention particulière, et surtout que c'est une période de grande marée. Qui dit grande marée dit des mouvements d'eau qui peuvent être très violents.
Une fenêtre signifiée sur un site que tu scrutes, c'est quoi ce site ?
On utilise Windy. L'idée sur Windy, c'est de regarder les conditions des risques de la traversée auprès des personnes en disant bah voilà, il y a des conditions de vent, de vagues qui sont beaucoup trop dangereuses pour la traversée. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera dangereux. Et on axe beaucoup sur 0,5 mètres de vagues et 10 nœuds de vent parce que au-dessus, c'est des conditions beaucoup trop dangereuses par rapport à la condition du bateau que les personnes ont l'habitude d'utiliser. Des embarcations pneumatiques doivent faire une dizaine de mètres de long et pour 3 mètres de large. Et sur ces embarcations, il y a maintenant plus de 70-80 personnes qui sont dessus pour une traversée. Et du coup, la partie émergée de cette embarcation dépasse rarement les 50 cm. C'est pour ça qu'on parle de cette limite de 0,5 mètres de vagues, et c'est ce qu'on regarde. Et du coup, on essaye aussi d'en informer les personnes. On a mis en place une story sur notre WhatsApp, du téléphone de l'association. Et aussi, il y a des équipes qui sont présentes et présentes aux arrêts de bus et aux différentes gares du Calaisis et du Dunkerquois pour faire un dernier appel des risques de la traversée, surtout une sensibilisation au numéro d'urgence. Mais aussi, on donne le numéro de l'association. On a une permanence téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, on donne ce numéro aux personnes pour qu'elles puissent nous contacter quand elles sont en détresse aussi. Du coup, l'idée, c'est aux alentours de minuit, 1h du matin, de partir, ce qu'on appelle en maraude, donc avec un véhicule rempli d'affaires, un peu de thé, de biscuits, de partir sur le littoral de la frontière belge jusqu'à peu près au Boulonnais, pour soit pallier le manque de l'État, soit alors agiter l'État pour qu'il puisse prendre en charge ces personnes, donc la détresse de ces personnes. C'est des moments très tendus, où à chaque moment, on redoute l'annonce d'une personne ou de plusieurs personnes décédées liées aux traversées. Mais il n'y a pas que ça qu'on redoute, on redoute aussi la violence de l'État vis-à-vis des personnes qui sont bloquées à la frontière. On parle de gazage d'enfants, de femmes, on redoute ça aussi, et c'est quelque chose qu'on essaie de pointer du doigt et de dénoncer, et que chaque personne puisse être au courant de cette violence.
Parce qu'on n'oublie pas que certains ne reviennent pas de cette traversée. On n'oublie pas que des fois, il faut se réunir sur les plages pour que les noms soient prononcés de ceux qui ont disparu en mer. Et ça, c'est un devoir de mémoire que certaines associations, dont Utopia 56, s'acquittent avec la plus grande douleur, mais aussi une forme de colère, non ?
Oui, c'est une partie qui est importante pour l'asso, de se souvenir des personnes qui sont décédées, mais aussi des personnes qui sont disparues, dont la famille n'aura jamais de nouvelles.
Moi, j'ai rendez-vous à 1h. Où alors ?
Je pense qu'on va commencer cette nuit aux alentours, proche de la frontière belge, zone où on a déjà observé des départs, et aux alentours de 1h du matin, puisque la pleine mer doit être aux environs de minuit. Haute mer avec un grand coefficient. C'est très souvent, nous, ce qu'on observe, c'est les tentatives de départ qui ont lieu à pleine mer descendante, donc à peu près vers 1h du matin.
Dunkerque. Et Céleste qui coordonne Utopia 56 pour Grande Sainte est à l'heure. Salut.
Ça va ?
Ouais, tout est calme.
Oui, il y a quelque chose, enfin, on est il n'y a pas grand monde la nuit.
On est devant le poste de secours. Ici, de la plage de Malo-les-Bains, et évidemment, il y a quelque chose d'un peu presque dérisoire, parce que il y a les consignes qui sont inscrites dessus pour les baignades. Oui. Parce que là, c'est un lieu de vacances.
Oui, oui, ça donne place à des images qui peuvent être assez contrastées entre des personnes qui sont là pour profiter, des personnes qui mettent leur vie en jeu. Mais il y a quand même une volonté de l'État de tout effacer. Enfin, tout signe de tentative de traversée sont effacés la journée. C'est-à-dire que le plus tôt possible, les gilets de sauvetage qui traînent, les embarcations laissées ou lacérées par la police sont très vite enlevés par les services de nettoyage pour pouvoir invisibiliser encore la situation de la frontière. C'est des choses aussi qu'on voit sur les lieux de vie par les expulsions, mais qu'on voit aussi sur le littoral par éviter que les personnes, le tourisme soient en contact de la situation, de la réalité de la situation. Mais juste à gauche, là, pas très loin, j'ai vu les flics dans les dunes avec des lampes.
Un policier court.
Oui. Je pense à chercher un groupe de personnes qui s'apprêtent à tenter une traversée. C'est quelque chose d'assez fréquent. Enfin, on voit fréquemment des patrouilles policières durant la nuit. Et du coup, c'est aussi une de nos missions de documenter cette présence et de documenter aussi la violence dont est capable cette institution policière.
Il y a des lumières, celles que tu voyais, qui sont là.
Oui, on est bien, on est entouré, quoi. C'est surtout qu'on est juste à côté d'un canal où des personnes tentent les traverser, là, juste sur notre gauche.
Bonsoir, messieurs. Il y a des gens, qui ont été repérés.
On cherche des goélands.
Ils rejoignent leurs collègues pour aller à la recherche de ceux qu'ils ont appelés les goélands. Il n'y a pas, Céleste, de confrontation.
Ça dépend. C'est arrivé où, selon l'institution policière, on était des passeurs. Ce qui a valu des contrôles avec sortie d'armes de service et violence physique.
La figure du passeur, voilà l'ennemi, celui qu'il faut pourchasser, démanteler les réseaux.
Il existe, il y a certains réseaux qui sont des réseaux de traite humaine et qui sont responsables de grandes violences vis-à-vis des personnes. Alors on pense notamment aux personnes mineures non accompagnées. Du coup, ça c'est quelque chose qu'on observe et aussi quelque chose qu'on essaye de dénoncer.
Ça coûte combien un passage ?
C'est plusieurs milliers d'euros. Mais en même temps, c'est quelque chose, nous, à Utopia, qui nous intéresse peu. Parce que le but, c'est que les personnes n'aient plus à payer pour risquer leur vie, pour de demander une protection internationale.
Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, j'ai l'impression que les personnes, les CRS parlaient d'une embarcation avec une vingtaine de personnes à bord. Donc je ne sais pas si la situation est là actuellement, se déroule là actuellement, ou si c'est quelque chose qui a lieu autre part. Toutefois, il semblerait que ça a nécessité la mobilisation d'au moins 8 policiers sur la plage.
Et manifestement, cette embarcation n'est pas là.
Tout, oui, vraisemblablement. Même si la pleine lune est assez belle, ça donne pas la possibilité de voir assez bien ce qui se passe sur l'eau. Et c'est une des difficultés aussi des équipes de sauvetage, c'est que tout ce qui se passe en mer est assez flou la nuit. Enfin, la visibilité est parfois limitée par le brouillard, par l'obscurité. Et les personnes peuvent parfois être très peu visibles, et ça donne aussi des difficultés pour les équipes de sauvetage de retrouver des embarcations ou des personnes tombées à l'eau.
Là, il y a un vent mauvais qui fouette en face du grand hôtel et des bistrots fermés de la digue de Dunkerque. Et eux, en face, c'est plutôt des civils, ça.
C'est les personnes avec qui on fait la mission cette nuit.
Qui ont mis un gilet.
C'est ça. Moi, je ne préférais pas le mettre puisque j'étais toute seule là, mais là, je vais... Enfin, on va pouvoir commencer ensemble notre shift.
On fait la jonction. Je reconnais Zoé.
C'est qui, les personnes ?
Bonjour.
Ça va ?
Ça va bien.
Bonjour.
Bonjour.
Alexandre.
Alizé, enchanté.
Bon, c'est bien d'avoir mis l'écharpe parce que ça commence à fouetter un peu là.
On est venu pour prendre une crêpe.
Oui.
Alors, au sucré salé.
Ils viennent de fermer.
Oh, oui, c'est loin. Trop vache.
On se met en route ?
Ouais.
On circule nuitamment sous la forêt de poteaux électriques monumentaux qui sortent de la centrale nucléaire de Gravelines, qui scintillent dans le noir comme un monstre puissant ici.
Oui, juste là à gauche, on est au niveau du canal de la A. Peut-être que tu avais déjà entendu parler de cette histoire de Juma Al-Hassan qui est décédé dans le canal de la A début mars 2023 suite à une action policière. La police a gazé un groupe de personnes et Juma Al-Hassan serait tombé dans le canal à ce moment-là. Et voilà, donc c'est un endroit où des personnes tentent de partir, puisque ce canal mène directement dans la mer du Nord.
Tiens, un autre véhicule des forces de l'ordre, là-bas.
où les clés?
C'est la personne qui est là?
Oui.
Tu lui dis qu'il y a un journaliste avant que j'arrive?
Oui.
Et ça, c'est la consigne qu'on vous donne à Utopia 56, effectivement, de ne pas aller en même temps qu'eux, puisqu'on n'a pas le même statut. Donc j'attends. Et là, Alizé, Zoé et Céleste sont en train de rencontrer la personne égarée qui les a appelés. Hello.
Hello.
Nice to meet you.
Nice to meet you, sir.
La personne, elle vient de Paris, il y avait trop de monde sur le bateau, elle a préféré ne pas vouloir monter. Et du coup, là, on est en train de checker, elle aimerait pouvoir passer un peu la nuit au chaud, donc on est en train de checker s'il y a des hôtels avec des places pour que la personne puisse y aller. Tous les hôtels ont l'air d'être complets. Et du coup, là, en second truc, on va essayer de voir s'il n'y a pas un lieu au chaud, des toilettes publiques d'ouvertes, etc., pas très loin, pour que la personne elle puisse attendre le premier bus demain matin qui est dans 3 heures afin de se rendre à la gare de Dunkerque pour retourner sur Paris.
Là, il veut retourner à Paris.
Ouais. Ouais, il disait qu'il y avait plus de 80 personnes sur l'embarcation et il a dit que c'était trop dangereux pour lui et il a préféré pas y aller. Et du coup, se retrouve tout seul.
Et là, Alizé, c'est toutes les choses qu'on peut distribuer.
Oui, ça c'est ce qu'on peut distribuer s'il y a des personnes qui ont faim. Et là, on a tout le thermos aussi pour du thé chaud avec beaucoup beaucoup de sucre pour réchauffer aussi ce qu'on peut réchauffer. Voilà, c'est ça.
Du matin et nouvel appel pour un autre cas de figure. Céleste,
j'ai très peu d'infos pour l'instant. Il semblerait que des personnes ont contacté notre téléphone de permanence parce qu'elles sont là sur la digue de Malo-les-Bains et qu'elles sont dans une situation de tentative de traversée échouée. Donc on attend un peu plus de news et après on va y aller. Mais je regardais des applications de remontée d'informations liées au trafic maritime. Et je regardais un peu un bateau qui s'appelle le Minc, qui a l'habitude de réaliser des opérations de sauvetage. Et en effet, en face de Malo, il a fait demi-tour. Et ça pourrait laisser penser qu'il est actuellement en train d'accompagner, donc c'est-à-dire de surveiller une embarcation qui est partie. Et du coup, l'approche des secours, c'est de surveiller afin d'intervenir le plus rapidement possible si la situation se détériore. Il faut savoir que les secours ne peuvent pas lancer d'opérations de sauvetage forcées qui risqueraient de mettre plus en danger les personnes. Donc voilà, surveiller ça, le Minc. Et nous, ouais, on attend l'autre partie de l'équipe pour pouvoir aller voir les personnes qui n'auraient pas pu monter sur cette embarcation.
La digue de Malo-les-Bains en face de grosses structures balnéaires. J'entends des voix effectivement. Et il y a plusieurs personnes avec des maillots de secours. Beaucoup de femmes. Hello.
YouTube.
How are you?
I'm good.
Good?
Yeah. Police, it's here.
You want to go?
No, I want to go, but police is here. Police back.
Where you come from?
We
Somalia.
Somalia, it's very problem.
Yeah, I know.
Yeah.
And you escape. And you want to go
UK.
UK.
Yeah. But I love France.
Là, il y a des couvertures de survie qui sont posées. Mais you were not in the water.
I was in the water.
Ah, you coming? You escaped from the water.
Yeah.
Why they stop? They stop the people here, and they don't give no life, no nothing, and no humanity. Why you stop here if you don't give no life there? That's the question. My question.
The big question.
Yeah.
And you have children here or not?
Yeah.
Yeah.
Police not helping, nothing. Why?
Because they are police.
Because we are Buddhist. Scheiße, police. You know Scheiße? No.
No good. Tomorrow you go again?
You go again?
Yes.
Yeah, of course. Of course.
Do you need sweet?
Okay.
What size?
Three size.
Big size.
This is
Ramadan for dinner.
Allah wa ta'ala.
Here you have it.
Oh,
yes, okay. You have this big. This big. This is all S. Let me see. Kids pens.
Là, ils sont tous trempés, quoi.
Ouais. Sur les genoux, ils sont pas tous trempés jusqu'au cou, quoi.
Donc ils ont pas réussi à mettre l'embarcation en mer, c'est ça?
Moi, j'ai pas l'information. Là, je suis juste à aider les personnes de ce qu'ils ont besoin. Et après, si on a le temps, on se posera et pour comprendre ce qui s'est passé. Mais
et ça vient de se passer.
Yeah, we don't have dress. Yeah. We only have trousers.
Yeah. كل سيب حقتك بح باوركس قديش يسكن.
Yeah.
والله وديري أنا عوقك بده دوم صباح.
حتى أي شيء.
كني ما كلاك. حتى ما يو
كايسيس. Ils sont en train de changer complètement avec les affaires que apporte Utopia 56. Ils sont tous trempés juste au niveau des genoux et. Mais il commence à y avoir des sensations certainement d'hypothermie. Certains sont déjà enveloppés dans les couvertures de survie. Je vais essayer d'aller voir quand même ce qui se passe du côté de la rive, là-bas, où les policiers, manifestement, n'auront pas autorisé à aller plus loin dans le voyage, évidemment. Bon, je vais m'approcher de ce camion de CRS qui est sur la digue de Malo-les-Bains, au milieu de ces petites structures pavillonnaires guillerettes. C'est assez surréaliste. Bon, le camion CRS est en mode chauffage. Ils sont à l'intérieur. Bonjour, messieurs. C'est la presse qui suit la maraude de Utopia 56. Donc là, on vient de porter un peu de secours à une dizaine de personnes plutôt d'origine somalienne, j'ai l'impression. Il s'est passé quoi? Ils ont essayé de partir. Et il n'y avait pas de bateau qui les attendait?
C'était sur le sable, là, et pas de bateau. Donc à quoi bon rester là s'il n'y a pas de bateau?
Bon, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils sont tous mouillés.
Parce qu'ils étaient dans l'eau.
Dès qu'ils ont les pieds dans l'eau, on ne doit plus intervenir. Par contre, s'ils sont sur le sable, on doit les empêcher d'aller à l'eau, justement. Mais une fois qu'ils sont dans l'eau, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. De toute façon, là, ils ne reviendront plus. ça. La marée est basse. C'est fini là.
La fenêtre est terminée.
Oui.
Et les échos que vous avez par les voies hiérarchiques, c'est quoi? Il y a eu beaucoup de départs aujourd'hui?
On les a vus partir prendre le large. Là. Ceux-là, ils ont loupé le coche. Ceux qui sont restés là, la plupart, c'est des femmes en plus. Mais il y en a pas loin d'une centaine qui sont partis là. Il y a les deux bateaux.
Ils vont revenir. Les Anglais, ils te les renvoient.
Oui, les Anglais nous les renvoient, les Anglais. C'est une histoire sans fin. On est perdu parce que en Italie, on les empêche de rentrer en France.
Exact.
Et ici, on les empêche de sortir.
Voilà.
Voilà.
Bon, je vais les rejoindre. Bonne soirée. Voilà l'avion de Frontex qui survole la ville de Dunkerque, la digue. Où est-ce?
TikTok.
TikTok. Ah, téléphone.
Allô. Abre.
Oh yeah, the train, the shoes, okay. How's the size of the shoes?
It's good.
It's good?
Yeah.
Okay.
But for me, like, I don't have it.
Yeah, yeah, I'm gonna give it
okay,
to you.
Okay, thank you, thank you.
Okay.
Et là, il y a quelqu'un qui sort ses poubelles, bâtiment F, en face du grand pavois, ces immenses structures résidentielles balnéaires. Monsieur, ils vous ont réveillé?
Je partais travailler, non?
Ah, vous partez travailler à 4h du matin?
Ouais, ouais, je suis couché.
Et vous avez vu ce qui se passe sous votre toit?
Bah ouais. Je n'ai même pas trop osé sortir, c'est vrai que c'est impressionnant.
Ça vous bouscule un peu quand même?
Ouais, quand même, moi, ça, le matin comme ça, c'est vrai que ça fait drôle. C'est la misère. Mais bon, malheureusement. Bon, allez, une bonne journée, monsieur.
Zessi.
Feet won't be wet, ok? I'm really sorry.
C'est quoi, Zoé, que tu lui conseilles de faire?
En gros, c'est des chaussettes de survie qu'on rajoute au-dessus des chaussettes. Comme ça, ça leur permet de ne pas avoir les pieds mouillés parce que genre, leurs chaussures, elles sont trempées, en fait. Donc, voilà. Et en fait, on n'a pas assez de chaussures et malheureusement, on aimerait pouvoir donner à beaucoup de gens. Mais cette nuit, il y a 1000 personnes, il y a 1000 personnes qui sont parties des arrêts de bus pour la côte. Donc, c'est énorme, en fait.
Oui. 1000 personnes.
Oui, 1000. Donc, voilà. On n'a pas 1000 chaussures, malheureusement. On aimerait, mais...
Sarah! Sarah!
Il y a ces cris déchirants de cet enfant qui doit avoir 8 ans et qui est complètement hagard par terre en train de taper sur une bouteille vide. Une ambulance vient d'arriver. C'est vous qui avez appelé l'ambulance ?
Oui.
Qui prend en charge juste madame ?
Oui, elle s'est plainte du. Bah, elle est tombée. Elle aurait chuté, elle a une douleur à la poitrine et au dos et qui l'empêche de respirer. Et du coup, voilà, on n'a pas de connaissances médicales et nous, quand il y a une personne qui se plaint d'un problème médical, on appelle le 15 ou le 18. Là, on a appelé le 15 et le 18. Le 18 a refusé de se déplacer. Je sais pas trop la raison et du coup, on a appelé le 15 après qui a envoyé l'ambulance.
Good luck.
Bye bye.
Et là, on sait un peu plus. Qu'est-ce qu'on sait là de ce qui s'est passé?
On n'a pas demandé encore. Enfin, les personnes sont principalement mouillées jusqu'au moins la taille, voire plus. Les personnes ont été à l'eau. Par contre, savoir ce qui s'est passé, j'ai pas encore demandé. On finit de rhabiller les personnes pour éviter qu'elles rentrent dans un état d'hypothermie. Après, on va pouvoir demander si elles souhaitent nous expliquer.
That's not good. This police.
Et ça, c'est une voiture de police en civil. Tiens. Yeah. Ils étaient en uniforme à l'intérieur d'une voiture banalisée. Police everywhere.
Everywhere, yeah. It's a big problem. I need UK. My family go UK today. I don't have here family. Problem.
But you are laughing.
Yeah. I don't have sleep. Not good. Nothing.
For how long?
Food not. Nothing here.
You have food here if you want.
Yeah, that's good. Wallah, that's good.
Et ils vous ont donné un peu de nourriture.
That's good.
Like a police.
Shoes, jaka.
C'est ça. Il y a des nouvelles chaussures.
All is good. Can I speak?
How old is he? No, your son?
Nine years. Sprechen Deutsch. Du sprechen Deutsch.
How long you have been living in Dutch?
Yeah. Drei Jahre.
Trois ans?
Drei. Viel.
When you escape Somalia?
Somalia, yeah.
How long?
All 4 years.
Quatre ans, ok. 4 years.
4 years, yeah. Problem Somalia. Tak, 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 tak. Somalia. Thank you. Merci beaucoup.
Là, on les voit partir sous la pleine lune. Ils partent vers où?
Leur plan, c'est de retourner sur le lieu de vie de Dunkerque, enfin le campement de Dunkerque, enfin du Dunkerquois qui est situé à l'une plage plus précisément. Et de toute façon, elles ont dit qu'elles allaient attendre un autre moment pour pouvoir tenter la traversée. Il semblerait que ce soit la police qui les a empêchés de partir. Par leur présence, puisque le bateau était en mer et dès que la police s'est approchée, le bateau est parti, du coup laissant les personnes à l'eau. Et du coup, la police était présente et les ont totalement laissés repartir, totalement trempés. Et du coup, c'est nous qui avons dû appeler une ambulance pour deux personnes qui avaient un besoin médical. Et du coup, c'est aussi la mobilisation citoyenne qui a essayé d'apporter un soutien matériel aux personnes trempées, quoi. Alors que l'État était présent depuis le début et n'a pas pris en charge ces personnes. Et voilà, c'est ça, ce truc de l'État qui est présent juste pour la répression et pas pour la détresse des gens après. Et tout ça est sous une communication de on sauve des vies en faisant ça, quoi. Bah, pas du tout. Si on veut sauver des vies, on leur propose des solutions quand elles sont en détresse et on leur propose des moyens d'aller en Angleterre de façon sûre pour elles et légale, quoi. Voilà un peu. Et nous maintenant, du coup, on va faire un débrief avec l'équipe pour déjà savoir comment ça va et puis soit aller se coucher maintenant, ou soit potentiellement avoir d'autres sollicitations d'autres personnes. Voilà.
De cette nuit, le communiqué de la préfecture maritime évoque plus de 600 personnes ayant tenté la traversée. Suite au naufrage d'une embarcation au large de Dunkerque, 94 d'entre elles ont été secourues. Alors si l'on peut nier l'effort porté par l'État pour secourir en mer les demandeurs de refuge, qu'en est-il sur terre pour leur éviter de vivre dans des conditions si dégradantes et indignes ? Un véritable scandale sanitaire et humain que les associations et ONG sur place ont dénoncé publiquement, n'hésitant pas à assigner récemment l'État en justice. C'était le 19 novembre dernier. Utopia 56, aux côtés de Médecins du Monde, Salam, Roots Human Rights Observers et le Refugee Women's Center, a déposé un référé liberté devant le tribunal de Lille. L'objectif ? Que le juge ordonne à l'État de prendre des mesures immédiates et pérennes pour assurer le respect des droits des personnes exilées bloquées à la frontière. On se rend maintenant à l'Auberge des Migrants, un immense entrepôt à la lisière de Calais, véritable plateforme logistique et humanitaire, abritant une dizaine d'ONG et d'associations françaises et anglaises opérant sur place, dont Utopia 56, pour laquelle travaille Angèle, avec qui on a rendez-vous. J'imagine que ce lieu... Beaucoup de gens le connaissent, même ceux qui ne font que transiter sur ce bout de territoire ici. C'est l'entrepôt. C'est presque l'Arche de Noé.
C'est un gigantesque bazar un peu ordonné. Ça ressemble à un endroit où on met en commun les forces à la fois humaines et matérielles pour ensuite venir en aide du mieux qu'on peut aux personnes qu'on croise à la frontière. Et ça ressemble à un gigantesque stock qui va de la chaussette au bonnet, en passant par les jouets, en passant par des batteries externes, en passant par des tentes. Je pense que c'est un endroit où quand on arrive, on prend un peu la mesure et l'ampleur de la tâche qui est à accomplir ou qu'on est en train d'accomplir tous et toutes ensemble ici. Donc c'est un lieu stratégique à la fois logistiquement parlant et aussi en termes de réflexion.
Il y a eu des moments d'abattement.
Je pense que ce qui est le plus dur, c'est de ne pas voir de fin, de ne pas arriver à avoir une fin à la situation qui perdure et qui s'aggrave d'année en année. Je pense que c'est ça le plus compliqué. Et du coup, c'est une espèce de lutte permanente contre des politiques qui ne changent pas. Et donc... là-dedans, il faut essayer de trouver à la fois un but général, qui est là la lutte contre les frontières ou contre le système frontalier européen, mais trouver aussi des buts pratiques dont on peut un petit peu plus trouver une solution rapidement pour essayer d'avoir de l'énergie ou d'avoir de l'espoir dans des choses concrètes qui peuvent rapidement être améliorées.
Il y a une voiture qui est en train de se faire réparer là-bas. Tout est brinque-ballant quand même. On sent qu'on fait ça avec les bouts de ficelle, avec les énergies. Il y a en face de nous un énorme conteneur où il n'y a que les boîtes de conserve qu'on recycle. Principalement des conserves d'ailleurs de 5 kilos de tomates. C'est assez beau, on dirait un Andy Warhol.
On devrait avoir comme fournisseur officiel Scotch ou Gaffer, je sais pas. Mais en tout cas, on essaye de travailler avec extrêmement peu de moyens, ce qui donne un espèce de d'une généralité de l'à peu près. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. On essaie de le faire fonctionner, en tout cas.
Qui s'appelle la Maison Sésame, à une trentaine, un peu moins de kilomètres de Dunkerque, à l'intérieur des terres. Sylvie de Jonquière, ex-patronne de Emmaüs ici, a décidé de l'ouvrir à tout le monde. On y vient sans frapper. Elle accueille ceux qui
en ont le plus besoin. On va découvrir un peu comment fonctionne ce lieu, qui en plus est situé... Sylvie, j'évoquais le nom de la rue.
De la petite maison bleue.
Ah, alors moi je connaissais la chanson, évidemment, il y a une maison bleue, mais là c'est la rue de la petite maison bleue, et c'est la maison Sésame.
Tout à fait, bienvenue.
On va se mettre à l'abri nous aussi, oui. Ça y est, le froid s'installe un tout petit peu, c'est le début de l'hiver qui se profile, c'est pas la meilleure saison j'imagine, pour tous ceux que vous abritez.
La mer, je sais pas, elle doit être à 10-12 degrés, alors s'ils arrivent là-bas, bah, tant mieux, et s'ils y arrivent pas, voilà, ils reviennent. Pour reprendre des forces, pour repartir, pour reprendre des forces, pour repartir. Une maman seule et ses 6 enfants étaient là l'année dernière. Elle a essayé de passer 20 fois. Elle y est arrivée la 20e fois. En fait, on ouvre une maison parce qu'on supporte tout simplement plus de voir ces gens au bout de nos jardins vivre comme on les fait vivre comme ça, quoi. Des enfants dans le froid, dans la violence, et donc il y a un moment donné, pour se sauver nous-mêmes, on est obligé de trouver des solutions. Et moi, ça a été l'ouverture de cette baraque, quoi, qui me calme et qui, un peu...
C'est une maison, alors, une maison charmante, en briques, au cul de l'église.
Dans laquelle j'étais petite aussi.
Et c'est ça, c'est voilà. La maison de famille.
Ouais, c'est chouette. Ouais, voilà, c'est une histoire qui continue et c'est bien.
Dites donc, vous l'avez agrandie, la famille.
Alors oui, la famille a grandi. On fait un peu péter les murs là. Mais c'est vraiment montrer que c'est un autre accueil est possible, que ça se passe bien. On est en plein cœur du village, on n'a jamais eu aucun problème. Et c'est nettement moins cher. Puisque avec tout ce que l'État dépense aujourd'hui, il pourrait ouvrir 6250 maisons. On en aurait beaucoup trop. Donc, chercher l'erreur, voilà. Et c'est aussi un vivre ensemble, c'est beaucoup de gens qui rentrent dans cette maison. Enfin, cette maison a trois vertus. La première, c'est de donner un toit et un peu de sérénité, un moment, un petit moment de leur voyage. La deuxième, c'est les rencontres, être cette maison ouverte pour que tout le monde rentre et tout le monde découvre ces personnes et que ces personnes découvrent la solidarité française et internationale. Ça les bluffe aussi. Les personnes qui arrivent ici, elles ne comprennent pas au début, elles croient que c'est une maison de passeurs, puis elles se rendent compte que alors c'est une maison de paix ici, et c'est une maison où il y a beaucoup de joie, parce que bien sûr quand on arrive de dehors, ça fait du bien d'être accueilli, ça fait du bien d'être au chaud, ça fait du bien de se faire à bouffer comme au pays, ça fait du bien de danser le soir, parce qu'ici je sais pas, il y a une espèce de gravité heureuse, voilà. Et la troisième raison, c'est pour calmer notre colère de militants. Ça marche un peu. Mais si on avait de l'argent, on en ouvrirait beaucoup plus, monsieur. N'hésitons pas.
Ah, ça, c'est une petite date. That's for me. Thank you.
C'est énergie.
Énergie.
We change tomorrow.
Dernière commande.
Association Salam, Grande Sainte, Nord.
On arrive sur le principal campement informel du Dunkerquois, baptisé le Nouveau-Calais, entre deux routes nationales, à l'intersection des communes de Grande Sainte, Longue-Plage et Mardic, à la bordure d'un terminal de gaz et du site industriel Total Énergie, protégé par un mur de parpaings récemment érigé pour en empêcher l'accès. C'est un vaste terrain vague où transitent plus de 2500 personnes, hommes, femmes et enfants, dans des conditions terribles, dans la boue, se mélangent détritus et restes de repas. Derrière les petits braseros se tiennent aussi quelques échoppes alimentées par les marchands profiteurs, sous l'œil des passeurs, où se vendent cher toutes les petites choses manquantes, des cigarettes à l'unité, aux recharges pour les portables en passant par les biscuits protéinés ou de la viande grillée douteuse. Claire Milot, la vice-présidente et secrétaire générale de l'association Salam, nous attend à l'heure de la distribution du repas auquel elle participe quotidiennement, inlassablement. Il est à combien le petit express ici ?
Il est offert.
Claire Milot, On plante le décor, on ne plante pas la tente, même si les tentes sont pas loin, elles sont en face.
On les voit pas. Maintenant, le camp est très, très, très étendu. Ils s'écartent par petites communautés et ils s'écartent pour essayer d'échapper aux évacuations policières. Donc, quand ils peuvent être à un endroit où il n'y a pas d'accès par des chemins carrossables, c'est mieux. Et du coup, ils sont loin, loin des points d'eau qui sont là, et puis loin du lieu de distribution. Ça, c'est le lieu de distribution qui est toléré par la sous-préfecture, et il n'y en a pas d'autre. Hein. Le sous-préfet nous l'a dit, on veut les précariser, ils doivent disparaître. Donc on prend les tentes et ils partent ailleurs. Ben, on dit, mais où ? Ailleurs. Alors c'est terrible, parce qu'ils ne doivent pas être là, et par contre, on les empêche de partir. Donc ils doivent rester dans la boue, sans toilette, sans douche, avec des associations qui font ce qu'elles peuvent pour leur donner une couverture et à manger. Et qu'il ne s'agit surtout pas de mettre quoi que ce soit de fixe.
Pas d'appel d'air, c'est sa fameuse question.
Mais évidemment, tout le monde sait que si on vient de Kaboul ou de Khartoum ici, c'est parce qu'ils ont su que la salade de fruits de salam était extraordinaire. Et donc ils mettent trois affaires dans un sac à dos et ils partent, bien sûr. Tout le monde sait ça.
Salam, on le traduit ?
C'est la paix, et puis c'est soutenons, assistons, luttons, agissons pour les migrants, qui ici existent depuis 20 ans, et pour moi 16. Seulement 16. Depuis le début, c'est un mouvement citoyen, c'est aider des gens qui sont dehors avec rien. Et on voudrait vraiment que ce soit mieux que ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, nous, c'est donner à manger, donner des couvertures, un petit peu de linge, et on voudrait vraiment qu'ils ne soient pas dehors. Et ça, on est dans une conjoncture qui fait qu'on sait qu'on ne l'obtiendra pas dans les années qui viennent. Alors à droite, on voit les douches fabriquées par Roots avec des cuves à eau. Là, il y en a entre 6 et 10, je ne sais même plus exactement. Donc c'est du bricolage à partir de cuves. Et puis 4 points d'eau qui sont des espèces d'éviers en ferraille rouillée. C'est l'accès à l'eau pour ce camp qui fait des centaines de mètres de diamètre.
Quand ils vous parlent, ils disent leur désarroi, leur même aussi leur colère et au-delà de la détresse, d'être traités ainsi.
Tomorrow England, de toute façon, ils tiennent comme ça. Hein. Tomorrow England. Parce qu'ils tiennent là dans des conditions aussi indignes, parce qu'ils pensent qu'ils vont passer très rapidement. Et puis, ils croisent les doigts, hein, Inch'Allah, pour passer en vie. Ici, ils sont bloqués. Ils sont soit déjà déboutés dans un pays d'Europe. Hein. Si vous avez refus du statut de réfugié au Danemark, c'est refusé dans les 27 pays. Donc soit ils sont déboutés, soit ils sont dublinés. C'est-à-dire qu'ils doivent demander le statut de réfugié dans le pays par lequel ils sont entrés. C'est absurde, parce que c'est jamais l'Angleterre, rarement la France et l'Allemagne.
Voyage en absurdie. Et où on en rajoute ? Aujourd'hui, c'est cet accord qu'on a du mal à comprendre.
One in, one out. Quelque chose qui a été signé en juillet, hein. Et il y a eu 75 renvoyés d'Angleterre et 51 passés de France en Angleterre. C'est ridicule. Et les gens, ils ne peuvent pas rester là comme ça.
Et il y a la figure du passeur.
Il y a des passeurs ici parce que le passage est interdit. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est la frontière interdite qui génère le passeur. Qui est un escroc, un trafiquant. Il trafique des humains comme il trafiquerait de la drogue. On arrête le gars qui est ici et qui aide quelquefois à faire la file et qui donne les lieux de rendez-vous, il est remplacé dans la demi-journée, comme le gars qui vend du hache en bas d'un immeuble. Et là, on a l'impression qu'on ne peut aller que vers du pire.
Comment vous avez perçu l'arrivée ici des milices patriotes de UKIP, qui viennent donc de l'autre côté, qui du 9 au 10 septembre dernier, à Grand Fort Philippe, ont réveillé dans une provocation obscène des migrants.
Alors ça, c'est une chose absolument horrible. Hein. Mais moi, je pense que c'est aussi grave ce qui se passe avec l'extrême droite française. Ici, on a eu deux sabotages. Une fois, c'était le 14 juin, juste après les élections européennes. Et on a une de ces tonnes d'eau qui a été contaminée avec un produit bleu. Bon, bleu, ça veut dire que c'est une menace. C'est une manière de dire attention, on peut faire pire. Et puis, au mois de mai, la série de douches là, qui sont faites aussi avec des conteneurs en plastique collés l'un sur l'autre, et qu'a fait l'association Roots, cette série a été basculée par terre et cassée.
Il y a quand même, Claire Millot, un sentiment aussi de colère, non ?
Ah, mais complètement. Et je tiens, entre autres, parce que je suis têtue. Et qu'on ne va quand même pas arrêter parce qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, parce qu'ils nous compliquent la vie, on ne va quand même pas arrêter. Il y a des gars qui sont dans la merde, avec pas de quoi manger, on leur a confisqué leurs tentes, le sous-préfet nous l'a dit. On ne rendra pas les tentes, parce que si on les rend, ça veut dire qu'ils vont se réinstaller. Donc, je n'ai pas envie de les laisser tomber.
Mais bon, aujourd'hui, ça a été une belle distribution. Vous seriez venu mardi, c'était autre chose. Il y avait un peu plus de bousculade. Quand il y a énormément de monde, c'est difficile. C'est difficile. Allez.
Quand est-ce que nos gouvernants vont comprendre que ce qu'ils mettent en œuvre ne fonctionne pas ? La seule chose que ça génère, c'est des morts. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est complètement inefficace. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été mis pour garder cette frontière. Il n'y a jamais eu autant de passages vers la Grande-Bretagne.
Damien Carême, ancien maire écologiste de Grande-Synthe, de 2001 à 2019, aujourd'hui député européen, sous la bannière La France Insoumise.
Donc il faut revoir complètement ces politiques-là. Il faut accueillir les gens, il faut regarder des accords, mais il ne faut pas les laisser comme ça, tenter le passage vers la Grande-Bretagne au risque de leur vie, de ces personnes-là. Et puis, il faut, après, tout le travail, c'est aussi d'aller plus haut et de savoir pourquoi ces personnes quittent leur pays et d'arrêter de jouer, nous, les néocoloniaux, pour aller chercher des terres rares aujourd'hui en Afrique, pour aller jouer avec tel ou tel dictateur au Soudan, ce qui déclenche une guerre civile et qui met des centaines de milliers de personnes sur les routes, etc., etc., qui, avec notre inaction climatique, fait que les agriculteurs, que ça soit dans un certain nombre de pays africains, ne peuvent plus se nourrir de leurs récoltes, qu'avec nos accords de pêche avec le Sénégal, les pêcheurs sénégalais n'ont plus un poisson on va mettre de leur filet, c'est nos gros chalutiers qui vont piller les ressources halieutiques au large de ce pays-là. Ben oui, on met ces gens-là sur la route et on se doit donc de leur trouver des solutions. C'est les conséquences de notre inconséquence européenne.
Autrement que des accords récemment passés qui sont même parfois considérés comme cyniques ou absurdes, cette fameuse loi de 1 contre 1, c'est ça ?
Ben oui, c'est complètement stupide. Mais ils sortent n'importe quoi pour faire croire qu'ils font quelque chose. On en est là aujourd'hui. C'est pareil l'accord entre l'Italie et l'Albanie. C'est pareil sur un certain nombre d'accords qui sont en train de se dépasser. Celui de la Grande-Bretagne avec le Rwanda qui n'a jamais vu le jour, etc., etc. C'est des accords d'abord iniques et en plus qui ne servent à rien. C'est pas comme ça qu'on empêche les gens de partir. 30 000 km de murs, de barrières, etc., etc. On n'a jamais investi autant d'argent. Frontex est passé à 1,4 milliard par an et il va doubler le budget parce qu'on a dit, non, tripler le budget parce qu'on a dit qu'on avait triplé le nombre d'effectifs. Pour faire quoi ? L'avion de Frontex, il n'y a jamais eu autant de passages. Mais quand est-ce qu'on va rentrer dans le crâne ? Ils ne sont pas des millions à venir. Ils sont des dizaines de milliers à venir. Regardons avec eux ce qu'on peut faire, ce qu'on peut construire, comment les accueillir, comment faire, etc.
De Dunkerque à Calais, la frontière de la honte, fin du 20e épisode de Pagaille, une collection de podcasts proposée par Alexandre Hérault et réalisée par Vincent Deck. Sur le site internet de Blast, à la rubrique des articles Pagaille, vous trouverez au transcrit l'intégralité de cette rencontre que Damien Carême nous a accordée. Si vous flânez par là, profitez-en pour vous abonner et soutenir l'effort de Blast pour l'audio digital. Précisons que dans ce dossier sans fin, à la fin du mois de novembre, après notre passage, une information a fuité et le journal Le Monde et le média indépendant Lighthouse Reports révèlent que sous la pression du Royaume-Uni, la France entérine un changement de doctrine. Désormais, la gendarmerie maritime pourra intercepter en mer des canots pneumatiques et ne se contentera plus d'empêcher les départs des plages. Le texte du référé Liberté, assignant l'État en justice, est disponible sur la page de cet épisode. Et bien entendu sur les sites des 6 associations et ONG l'ayant rédigé, dont celui d'Utopia 56, que nous remercions pour nous avoir autorisé de porter le micro-vérité à leur côté. Vous pouvez les soutenir en faisant un don pour leur 10e anniversaire.
Une création.
Blast.